la naissance, en général baignée de joie, de douceur. Et puis parfois, pour certains parents, c'est au contraire le choc et la douleur. On va en parler, c'est l'heure de partager. Chaque année, des parents découvrent le handicap de leur enfant à la naissance ou à quelques semaines de vie. C'est une annonce évidemment qui est retentie comme un choc et qui va bien sûr bouleverser le cours de l'existence de toute la famille. Mais surtout, elle laisse souvent des familles sans réponse et en plein désarroi face à leur avenir. Donc c'est important de parler de ça, parfois du manque d'accompagnement, du manque de tact. Ça vient très certainement d'une gêne. Comment pleinement rencontrer son bébé aussi dans un contexte aussi particulier? Quels impacts sur le lien parent-enfant? Il y a plein de questions qui sont liées à ce sujet très difficile. Nous recevons ce matin Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci d'être venue témoigner aujourd'hui. Vous êtes la maman d'Arthur, 2 ans et demi. Il est atteint de la maladie de Norrie. Alors vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que c'est. En gros, c'est une anomalie rare du développement, responsable notamment d'une cécité congénitale. Donc vous représentez aujourd'hui tous les parents qui vivent le même cauchemar que vous, parce que c'est évidemment super difficile. C'est important de dire aujourd'hui où on en est, comment on est pris en charge et ce qu'on ressent profondément pour améliorer les choses, bien sûr. Et puis à vos côtés, Céline Bidon-Lemel, vous êtes psychologue clinicienne à Paris. Merci de venir nous voir et de nous éclairer aussi, de faire un petit point sur ce qui reste à faire, sur ce qui est perfectible. Marie, alors après une grossesse sans souci particulier, il faut le dire, un accouchement aussi qui s'est très très bien passé.
Oui.
Vous faites la connaissance d'Arthur, qui est votre petit garçon. Comment se passent les premiers instants déjà, quand vous le voyez pour la première fois?
Très bien, enfin, il est beau, tout va bien. On prend un premier, on fait un câlin, on le pose dessus, tout va bien. Et là, après, l'auxiliaire le prend pour lui faire les premiers soins. Et elle se rend compte qu'au niveau de l'oreille, il a un surplus de chair, ce qu'on appelle un onchondrome prétragien. Mais bon, elle nous dit, il y a ça.
C'est un petit peu plus de peau au niveau du lobe.
Au niveau ici, à ce niveau-là.
D'accord.
Ça fait un petit surplus.
Au-dessus du lobe, alors.
Ouais. Ouais, ouais. Et elle nous rassure en nous disant que ça arrive, c'est rien.
C'est esthétique, quoi.
Tout à fait.
Alors, on lui fait un test auditif, mais ça, c'est le cas de tous les bébés. Pendant le séjour à la maternité, comment ça s'est passé donc avec son petit surplus de peau?
Eh bien, du fait du surplus, en fait, le canal auditif était beaucoup plus étroit et la machine qui permet de faire ce test ne passait pas. Du coup, les résultats du test étaient négatifs. On pouvait, enfin, les sages-femmes qui faisaient le test nous disaient, on ne sait pas si il y a un problème d'audition ou si c'est juste le test qui répond pas. Ça arrive apparemment, c'est quand même fréquent.
Bon. C'est un peu le stress, là, quand même. Vous n'êtes pas détendu, ce qu'on
non,
peut comprendre.
Du tout.
Comment est-ce qu'on peut, Céline, rencontrer pleinement son bébé quand il y a une malformation ou un handicap à la naissance qui est diagnostiqué? Comment est-ce qu'on fait pour créer le lien? C'est très compliqué, quand même.
En fait, ça va dépendre vraiment des parents et d'un certain nombre de paramètres, comme par exemple la possibilité des parents à pouvoir s'extraire un petit peu de l'enfant imaginé. Mmh. Il y a des parents qui vont beaucoup projeter des images mentales s'ils n'ont pas eu vraiment de désir idéal de leur enfant. Du coup, à la naissance, c'est plus simple. Puis il y a aussi la façon dont la grossesse s'est produite, s'est passée. Est-ce que le lien s'est tissé entre le parent et l'enfant? Il est clair qu'à ce moment-là, du coup, la rencontre est plus simple. Alors tout à l'heure, vous parliez notamment de la rencontre par le regard. Ça s'appelle le proto-regard. En psychoclinique, on connaît ça.
Le proto-regard?
Le proto-regard, c'est le premier regard.
C'est le premier contact.
Voilà, c'est le moment visuel, en fait, où l'enfant et la mère se reconnaissent comme faisant partie de la même famille, étant unis. Ils sont effectivement dans un rapport réciproque mutuel, ce qui les fonde en fait au monde l'un et l'autre et qui leur donne en fait une sécurité pour toujours. Donc effectivement, ce proto-regard, de temps en temps, il arrive un peu plus tard, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que si cet échange-là mutuel s'est officié, évidemment, on pourra, malgré le bouleversement, se rencontrer davantage et passer outre.
Oui, c'est ça. Alors ensuite, vous êtes allé faire la visite médicale des 1 semaine
oui.
D'Arthur. En fait, la surdité s'est écartée.
Tout à fait.
On vous dit, il entend bien. En revanche, le pédiatre, il voit quelque chose à l'œil.
Oui.
Donc, on a dû faire une échographie sous anesthésie générale, c'est ça?
Oui.
Parce que je pense que c'est le protocole.
Oui.
Qu'est-ce qu'a révélé cette échographie?
Cette échographie a révélé qu'il y avait des malformations au niveau des deux rétines, qu'Arthur avait deux malformations différentes dans chaque œil. Là, on nous annonce qu'il y a très peu de chances qu'il puisse voir un jour. Voilà.
Et on commence déjà à faire le lien avec cette fameuse maladie de Norrie.
On nous dit ça peut être ça. Il va falloir faire des tests génétiques, voir si c'est juste une cécité isolée ou si... ça peut être cette maladie de génétique.
Alors Céline, dans le mail, on a eu des témoignages et beaucoup de parents qui nous racontent cette annonce du handicap de leur enfant de manière un peu froide, un peu brutale, souvent comparée à une annonce météorologique. Est-ce que le personnel médical est formé à faire ces annonces-là? Est-ce qu'ils ont assez de temps pour le faire? Comment est-ce qu'on pourrait imaginer que ça se passe du mieux possible pour les parents, puis pour eux, parce que j'imagine que c'est jamais marrant non plus.
Alors c'est vrai que dans le cursus médical, il n'est pas forcément prévu d'avoir beaucoup d'heures de psychologie et donc forcément encore moins sur des sujets aussi spécifiques que l'annonce du handicap. Alors il est vrai qu'il y a certains médecins qui sont vraiment en difficulté pour pouvoir faire cette annonce. Il est arrivé de temps en temps qu'on me rapporte que ce sont même les infirmières ou les sages-femmes qui ont été envoyées à leur place, alors que c'est strictement obligatoire que ce soit un médecin référent qui fasse cette annonce. Alors il est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué, mais c'est vrai que si l'équipe est vraiment organisée, si elle s'est penchée sur le sujet, s'il y a un collectif collégial qui se tisse, et bien effectivement les choses se passent mieux. Et il y a notamment un certain nombre de protocoles qui peuvent être organisés et qui font que l'annonce se déroule particulièrement.
J'imagine pas être seule face aux médecins ou des choses comme ça. Enfin, il y a probablement des façons de faire. C'est jamais la meilleure façon, bien sûr.
Alors c'est vrai que dans les pratiques un petit peu connues comme étant aidantes, on sait qu'il faut en général demander à deux professionnels d'intervenir auprès des parents. Donc parmi ces deux professionnels, un senior, de façon à éviter le doute vis-à-vis du diagnostic qui sera évoqué. Donc voilà. Ensuite, on demande aux parents d'être accompagnés si besoin pour pouvoir faire face à cette épreuve qui est extrêmement difficile. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une amorce en escalier. D'accord. C'est-à-dire pas à pas, on annonce les choses progressivement et si possible avec un écrit, de façon à ce que les parents puissent repartir avec cet écrit, parce que pendant ce temps-là, ils sont extrêmement sidérés et ils comprennent pas grand-chose. Et puis, il faut aussi laisser un espace à la fin de l'entretien pour poser des questions et surtout proposer aussi un rendez-vous retour. Parce que dans un second temps, la sidération se sera un petit peu évaporée et ça permettra aux parents de reposer leurs questions et du coup de tisser une relation de confiance avec l'équipe médicale. C'est très important pour la suite.
Quand on vous a annoncé la cécité d'Arthur, c'est ça, c'est la sidération. Et quand on a parlé de la maladie?
Oui, c'est... On a peur de tout ce qui va se passer. On ne sait pas comment ça va se passer. Je suis tombée. Je savais pas. Je me sentais tellement seule, tellement. Rien ne pouvait me soutenir, même si mon mari, notre famille, nos amis étaient très présents. On se sent terriblement seule.
Est-ce que déjà à ce moment-là, vous pensez, est-ce que à ce moment-là, vous pensez que ça a eu un impact sur votre relation avec votre bébé?
Oui, c'est évident. Je pense qu'il n'y aurait pas eu l'handicap, j'aurais été une maman très protectrice, mais je pense que je me suis vraiment encore plus centrée sur Arthur, plus dans la surprotection, beaucoup de difficultés à le laisser, même aux grands-parents. Aujourd'hui, il a 2 ans et demi, il n'a toujours pas dormi une nuit. Enfin, dormi, oui, mais il n'a pas passé un week-end entier chez ses grands-parents sans nous.
Bon, je vous rassure, on est nombreux dans ce cas-là.
Oui.
Céline Bidon, le mail, Marie disait elle a une attitude plutôt ultra protectrice avec Arthur. Il y a certains parents aussi qui doivent avoir l'attitude inverse, plutôt un rejet, parce que le handicap fait peur, et puis évidemment là on doit faire le deuil d'un bébé qu'on n'imaginait pas comme ça. Quelles sont les conséquences en fait justement sur le lien quand on apprend le handicap à la naissance?
Alors en fait ce lien c'est toujours pareil, il est vraiment construit sur la base à la fois d'un antécédent, d'une annonce faite d'une certaine façon, d'un entourage qui va être plus ou moins étayant et structurant. Après, il est vrai que la question du rejet, ça existe par rapport à un enfant handicapé, qui est annoncé en comme handicapé, mais ça existe aussi dans d'autres problématiques. Alors, parmi ces modalités de rejet, on peut avoir des formes insidieuses ou des formes directes. Et donc, on peut avoir la fuite du regard, on a du mal à regarder son enfant, on a du mal à se lier et à s'attacher affectivement. Il y a aussi ce qu'on appelle les fonctionnements un peu opératoires, c'est quand on soigne son bébé, on le lange, mais d'une façon non affective, par devoir. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à lui quand on le soigne. Et puis, il y a un certain nombre aussi d'auto-dénigrement potentiel de ses parents qui se disent « mon bébé ne m'aime pas ».
Mmh. Oui, ça c'est encore autre chose.
Voilà, ce rejet, il peut intervenir au début. Il peut aussi intervenir un peu en différé au moment d'apprentissage qui ne peuvent pas se faire.
Une fois qu'on sort de cette période où on est un petit peu anesthésié, totalement sidéré, je vois. Alors Amélie et Cédric sont les parents de Romane qui a 13 mois, qui est atteinte d'une trisomie 21. Elle a été découverte à la naissance. Passé le choc de l'annonce, le couple a appris à accepter la différence de leur fille et accompagne au mieux son évolution. Flore Mongibaud les a rencontrés à Passé, c'est près de Rennes.
Là. Maman était une chaton.
La naissance de Romane, on était dans l'euphorie, plein de belles choses nous arrivaient. C'était le début d'une nouvelle histoire à trois et d'une vie de famille à trois. Et puis, j'ai trouvé que Romane avait les yeux un peu en amande, donc ça ressemblait pas forcément aux yeux qu'on avait dans la famille, ni l'un ni l'autre. Donc j'ai soumis en fait la question au pédiatre et à la sage-femme. Et donc là, effectivement, la pédiatre nous a dit, nous pensons nous-mêmes, le corps médical, qu'il y a une suspicion de trisomie 21. Donc là, effondrement total, choc. Donc on a beaucoup pleuré, tous les deux.
On craque, c'est sûr, tout s'écroule. On ne sait pas dans quoi on se lance, quoi. On ne connaît pas, on ne sait pas qu'on ne s'est jamais intéressé à ça, mais on ne pensait pas que ça pouvait nous arriver. Donc,
On doit faire le deuil de l'enfant imaginé. Donc c'est une nouvelle vie avec Romane, qui est un peu différente, effectivement.
On a réussi à rebondir assez vite, et puis...
Ouais, on s'en est plutôt bien sortis.
Alors, Romane, on travaille la position à genoux. Regarde comme ça. Voilà.
Bien. Elle a du mal à se mettre sur ses genoux, en fait, à voir qu'elle peut jouer sur ses genoux et qu'elle peut faire des activités en étant sur les genoux. Et donc, du coup, le fait de travailler cette position lui permet de, plus tard, voir la position un petit peu quatre pattes. Tu plies ta jambe, mon chat ? Comme beaucoup d'autres enfants porteurs de trisomie 21, en fait, elle a une hyperlaxité au niveau des hanches, principalement. C'est pour ça qu'effectivement, on a une prise en charge au niveau kiné et psychomote pour prendre les bons chemins, en fait, et pour acquérir la marche.
Tu te tournes, voilà, comme ça, et on serre les jambes. Hop. On revient ? On revient, Romane ? On vient s'asseoir ? Oui, c'est bien.
Quand on nous a annoncé la trisomie 21 de Romane, je m'étais représenté un enfant qui n'arriverait à rien faire, quasiment, enfin, qui aurait vraiment des difficultés dans tous les apprentissages. Or, la Romane, elle a 13 mois, et clairement, elle se débrouille plutôt bien, elle prend son temps, elle va à son rythme. C'est plutôt positif, le développement de Romane, actuellement.
Entrez.
Coucou, ma chérie.
Regarde, il y a papy et mamie.
Coucou, ma chérie.
Voilà.
Quand j'étais jeune, la trisomie, on n'en parlait pas et on avait tendance à cacher ces enfants-là. Que maintenant, heureusement, ça a évolué et on en parle beaucoup plus facilement. Et il faut encore en parler.
Ça nous permet aussi de nous ouvrir sur, d'avoir un regard sur la vie, sur les enfants, qui est différent, en fait, je trouve.
Les autres neveux et nièces que j'ai, en fait, ils faisaient du quatre pattes, bon, super, mais ça reste un enfant qui fait du quatre pattes. Alors que Romane, il y a un effort supplémentaire qu'elle a à fournir pour y arriver. Et du coup, oui, on a une espèce de fierté que j'ai pas vécue avec les autres neveux et nièces.
Le regard des autres, nous, on le vit plutôt bien parce que pour le moment, ça reste un bébé. Donc c'est vrai qu'on n'a pas été tant que ça confronté à des regards malveillants.
Non.
Après, on sait très bien que l'avenir ne sera pas tout beau, tout rose et qu'il y aura des moments plus difficiles.
Et plus quand il y aura l'étape école, je pense que c'est peut-être plus ça qui, moi, de mon côté, peut me faire peur.
Avant l'arrivée de Roman, on avait pour projet d'avoir 3 enfants. Et aujourd'hui, en fait, les choses n'ont pas changé. On veut toujours 3 enfants, on veut toujours agrandir la famille. On espère voilà, faire des petits frères et des petites sœurs pour Roman.
Eh ben, elle est bien mignonne, cette petite Romane. Là, on l'a entendu avec Amélie et Cédric, évidemment, c'est un bouleversement terrible. En quoi est-ce que vous, ça a bouleversé votre vie, l'annonce du handicap de votre fils? Comment vous avez réussi à vous projeter après?
Tout est remis en cause. On ne sait pas s'il va être capable d'avoir une vie normale, entre guillemets, d'aller dans une... Enfin, on ne se projette pas sur l'accompagnement de son enfant à l'école, sur est-ce qu'il pourra faire des études, avoir une femme ou un homme dans sa vie, avoir des enfants. On s'inquiète par rapport à lui, son avenir, et en parallèle, nous, notre avenir aussi, à nous, en tant qu'individu, il est remis en cause, parce que professionnellement parlant, plus trop d'évolution possible, hein, même si mon employeur est bienveillant. J'ai été obligée
de... Parce qu'il faut plus d'heures, il faut se dégager plus de temps.
Bien sûr. Donc aujourd'hui, je travaille à mi-temps et moins d'évolution possible derrière.
Bien sûr. Céline Bidon-Lemel, est-ce qu'il y a... Enfin, j'imagine évidemment que la réponse est oui, mais il y a, j'imagine, un deuil de l'enfant fantasmé, imaginé à faire.
Oui, alors
c'est déjà c'est déjà compliqué quand on a un enfant tout à fait normal de faire le deuil de cet enfant-là, quand il ne ressemble pas à ce qu'on avait imaginé.
Disons que le deuil, il est de toute façon à faire, parce qu'il y a toujours un gap entre ce qu'on imagine et la réalité de cet enfant. En revanche, quand il s'agit d'un enfant qui a un handicap, avec une perturbation d'autant plus importante sur la vie familiale, et donc le bouleversement que ça génère, évidemment, ça va prendre plus de temps, ça va s'étaler vraiment sur le temps, puis il y a des étapes maturatives au cours du développement de cet enfant. Et c'est vrai que la différence avec une famille normale qui n'aura pas eu les yeux ou les cheveux de la bonne couleur, bon, on comprend bien qu'effectivement, c'est très différent.
Bien sûr.
Est-ce qu'il faut aussi accepter de faire une forme de croix sur sa vie personnelle, professionnelle, vous l'avez dit, mais aussi sociale, j'imagine, enfin, sa vie tout court, quoi.
C'est vrai que c'est une vraie réalité sociale. Je trouve qu'on ne se rend pas suffisamment compte des impacts que ça a. Et notamment, même si la MDPH, qui est la maison départementale pour les personnes handicapées, a vraiment mis en place, il y a une politique qui s'est vraiment étoffée au fur et à mesure du temps, avec des enveloppes budgétaires, des compensations, des accompagnements, etc. Ça reste bien souvent très insignifiant par rapport aux épreuves extraordinaires que vivent ces gens.
Bien sûr. Marie, d'ailleurs, en parlant d'épreuves extraordinaires, il y a évidemment l'annonce, il y a la façon dont on vous l'a annoncé, il y a le fait aussi que vous ne saviez pas du tout vers qui vous tournez.
Non.
Et puis, ça a été vraiment le cas, c'est-à-dire qu'après, on ressort du rendez-vous, on se dit, qu'est-ce que je fais?
C'est ça. Mais nous, on n'a pas eu de chance encore, en plus, parce qu'on a appris les problèmes au niveau des yeux d'Arthur, on était fin juillet. On rentre chez nous, on cherche sur Internet quelles structures peuvent nous soutenir éventuellement. On appelle, et là en fait on est au mois d'août, donc tout le monde est en vacances, ouais, et on nous dit tout se passera à la rentrée. Donc là on a passé un mois seul, sans savoir qui pourra nous soutenir, nous aider, parce qu'on a quand même envie.
Sans aucun référent, sans aucun professionnel référent.
C'est ça.
En parlant d'attente, on a fait les analyses génétiques en septembre 2018, c'est ça, pour Arthur. Et vous n'avez eu les résultats qu'en septembre dernier, en 2020.
Oui.
Donc 2 ans d'attente. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous vous disiez?
Je pense que... pour moi, c'était pas possible. Il pouvait pas avoir cette maladie. Donc pendant ces 2 ans, je me suis dit non, il est juste aveugle. C'est pas cette maladie. Et on fait comme ça, en faisant fi de cette possible maladie.
Vous l'observiez tout le temps, j'imagine.
Oui.
Vous le décortiquiez en permanence, tous ses faits et gestes.
Oui, on remarque bien qu'il a un retard dans son développement, mais pour nous, c'était en lien avec la cécité. On se doute bien qu'un enfant qui ne voit pas, il ne va pas avoir le même développement qu'un enfant qui voit.
Alors malheureusement, quand les résultats sont tombés, il l'avait bien, cette maladie. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, vous avez eu 2 ans peut-être pour vous préparer quand même à cette possibilité.
Et non, on n'est jamais... Enfin, on n'est pas prêt.
On n'est jamais prêt.
Non, je me suis effondrée et c'est la deuxième chute. La première à l'annonce de la cécité, et là, la maladie de Nori. Enfin, j'avais vraiment l'impression de tomber et d'arriver à me rattraper à rien. Et on se sent encore une fois seul.
Et vous avez quand même des associations qui vous aident aujourd'hui, des groupes de parole, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont mis en place.
Ouais. On est soutenu par une association qui prend en charge Arthur pour l'accompagner dans son développement. Et justement, lors d'un groupe de parole dans cette association avec les parents, il y a une maman qui a dit, en parlant de vacances avec sa fille, « J'ai oublié le handicap de ma fille. » Et c'est ça, en fait, au quotidien que je m'efforce de faire pour voir Arthur comme il est, un petit enfant de 2 ans et demi, et pas comme une personne, comme un enfant handicapé, pour l'aider au mieux dans son développement.
Mais aujourd'hui, vous êtes au courant de toutes les conséquences liées à la maladie ?
Alors, on sait que cette maladie peut impliquer retard de développement, retard mental, et parfois une surdité qui apparaît à l'adolescence. Mm-hmm. Mais sur le retard mental et la surdité, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il
vous
en sera.
Vous vivez quand même avec un coup près au-dessus de la tête, quoi.
Oui.
Céline, est-ce qu'il y a des étapes dans l'acceptation ?
Alors, l'acceptation, en fait, ça fait partie intégrante du deuil qui lui-même est un processus. Donc, dans la littérature clinique, on parle de différentes phases, donc comme sidération, le choc, la colère, puis ensuite la descente, la déprime, et puis, dans un second temps, l'acceptation qui donne lieu à une remontée psychique et à la possibilité, en fait, de réinvestir son projet de vie. Dans la réalité clinique, c'est un petit peu plus complexe et aléatoire. On fait plutôt des allers-retours entre ces phases. Donc cette acceptation, elle est vraiment soumise à une temporalité qui est très importante.
Bien sûr.
On a reçu une question de Sama, dont le fils qui s'appelle Ayoub est né avec une malformation de la main. Question envoyée en vidéo. Regardez.
Bonjour la maison des maternelles, je m'appelle Sama, maman d'un petit garçon Ayoub, 2 ans et demi. Il est né avec une syndactylie complète complexe de la main droite. Il a subi plusieurs opérations et en septembre prochain, il rentre à l'école. Je voulais savoir comment le préparer correctement à la rentrée, sachant que c'est un enfant surprotégé depuis la naissance. Merci beaucoup pour vos réponses et merci pour tout ce que vous faites. Au revoir, bonne journée.
J'imagine que c'est une question que se posent beaucoup de parents dans ce genre de situation. C'est vrai qu'ils ont surprotégé leurs enfants, ce qui se comprend tout à fait. Et quand on arrive à l'école, ils vont être confrontés aux autres enfants. Comment les protège ? Comment les prépare.
Moi, je pense aussi que ça dépend vraiment du handicap. Donc, dans la situation de cette dame, son enfant a un handicap, certes, mais qui n'influe pas, en fait, sur l'intégralité de ses apprentissages. Donc, dans ce contexte, moi, je recommande plutôt d'informer la maîtresse, qui elle-même va voir un petit peu comment, au fur et à mesure du temps, les choses se passent dans la classe. Il y a certains parents qui ont justement envie de faire des informations et souvent, ils sont capables de répondre pour dédramatiser le sujet. Et donc, ça peut permettre aussi une meilleure intégration.
On peut dire aussi qu'à 3 ans, les enfants sont d'une bienveillance totale.
Tout à fait.
Alors les tout petits, là, ça vient après, la violence, mais ça vient. Marie, il est comment alors, Arthur ? Parlez-nous un peu de votre petit garçon.
Il est adorable. C'est un petit garçon plein de vie, souriant. Il a développé son audition pour compenser et il chante tout le temps. Il passe.
Ça, c'est chouette, ça.
Ah, c'est génial. Là, on est dans la. Enfin, c'est. Il chante les paroles. Il est adorable.
Il est adorable. Ouais. Et vous, comment vous allez aujourd'hui ?
Bah, ça va.
Il y a après ce cauchemar, parce qu'il faut quand même appeler un chat un chat.
Il y a des moments plus difficiles, mais on n'a pas le choix, on avance, il faut être là.
Vous avez un sacré planning, j'imagine, parce qu'il doit avoir un suivi. Non, mais ça aussi, ça,
oui.
Ça pèse.
Oui, tous les jours, on a des rendez-vous, du lundi au samedi.
Ergothérapeute.
Kiné, psychomotricien, éducatrice, ergothérapeute, orthophoniste.
Il est gardé ou pas la journée quand vous allez travailler ?
Oui, il est chez une assistante maternelle. Mm-hmm. Ça se passe... extrêmement bien, elle est formidable. Elle accompagne Arthur vraiment comme tous les enfants qu'elle accompagne. Elle tient pas, l'handicap.
Elle fait aucune différence.
Oui, ça lui a pas fait peur d'accueillir Arthur alors qu'il avait ce handicap.
Bon, écoutez, ce qu'on retiendra, c'est que c'est un petit garçon plein de vie et formidable. Je crois que c'est il faut essayer, enfin nous en tout cas de l'extérieur, on se raccroche parce que votre histoire elle est dure à vivre pour les gens qui l'entendent aussi, parce que c'est quelque chose de terrible et on, évidemment en tant que jeune parent on ne peut que vous comprendre et on se dit allez il est plein de vie, il est souriant, lui il est heureux et voilà, on essaie de s'accrocher à ça. Merci beaucoup Marie hein, d'avoir témoigné aujourd'hui parce que vous aidez beaucoup de parents dans votre cas qui nous regardent. Merci mille fois à vous Céline Bidon-Lemel de nous avoir accompagné. C'est sûr que je pense que si on vous rencontre sur le chemin de ce genre de cauchemar, justement, peut-être que le cauchemar est bien différent. D'où l'intérêt d'être bien pris en charge. Merci à Floriane Gillette pour